le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 23 février. Hélène Fromanti, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la menace d'une guerre à son paroxysme à l'est de l'Ukraine. Après la reconnaissance par Moscou des républiques sécessionnistes pro-russes, à Washington, on évoque un début d'invasion, dégaine les sanctions. Et en Ukraine, on se prépare au pire. On en parlera, Léa, à 7h50 avec votre invité.
Oui, les sanctions européennes et américaines vont-elles être suffisantes? Emmanuel Macron a-t-il été trop naïf dans son dialogue avec Vladimir Poutine? Beaucoup, beaucoup de questions ce matin, évidemment, à poser au secrétaire d'État chargé des relations européennes. C'est Clément Beaune qui sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. Les autres titres, Hélène.
Bientôt 14 semaines et donc plus 12 pour avorter en France. Le Parlement doit valider ce soir l'allongement du délai de l'IVG. Nous verrons dans le journal comment se positionnent les principaux candidats à la présidentielle. Le procès de l'attentat du Saint-Étienne du Rouvray, les accusés savaient-ils ce que préparaient les terroristes qui ont tué le père Jacques Hamel? Et puis quand les fibres textiles et autres cheveux deviennent œuvres d'art, focus en fin d'édition sur une exposition pour le moins surprenante.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale sur cette étrange présidentielle qui n'a pas encore vraiment démarré à 46 jours du premier tour. Trois invités pour en parler. Pierre-Henri Tavoyau, Brice Teinturier, Raphaël Yorca. Et vos questions dès maintenant au Standard d'Inter. 01 45 24 7000.
France Inter. La Douma, le Parlement russe, a donc donné son feu vert à une opération militaire en Ukraine. Alors que les milliers de soldats russes sont postés à la frontière ukrainienne, le risque d'une escalade est au plus haut pour les États-Unis. L'invasion a même déjà débuté. Alors en guise de riposte, le président américain Joe Biden hausse le ton. Il dévoile de premières sanctions contre Moscou. À New York, la correspondance de Loïc Loury.
C'était la ligne rouge à ne pas franchir, l'invasion russe de l'Ukraine. A débuté, a dit Joe Biden depuis la Maison-Blanche. Le président a donc dévoilé les sanctions promises depuis des semaines. Elles viseront plusieurs banques, le financement de la dette souveraine de la Russie et une partie de ses élites. Cela veut dire que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental. Tout cela a été décidé en coordination avec nos alliés et nous n'en resterons pas là si la Russie favorise l'escalade. Washington garde donc des cartes dans son jeu. Aucune institution financière n'est à l'abri des sanctions, disait hier un responsable américain. Cela dans le cas où l'invasion se poursuivrait et Joe Biden y croit fermement. Il a explicitement menacé d'entrer en guerre à moins que ses revendications extrêmes ne soient acceptées. La Russie est incontestablement l'agresseur et nous avons l'esprit clair sur le défi qui nous fait face. Le président annonce poursuivre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Des troupes seront déployées aux pays baltes. La diplomatie malgré tout reste ouverte, dit-il, visiblement peu convaincu. La rencontre jeudi prochain entre les chefs de la diplomatie américaine et russe a d'ailleurs été annulée. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'Union européenne prend elle aussi un paquet de sanctions avec dans son viseur notamment les députés russes. Et à l'instant, Vladimir Poutine assure que la Russie est prête à trouver des solutions diplomatiques avec les Occidentaux. Sur le terrain de l'Est de l'Ukraine, le pire est donc à craindre. Et la population se prépare à une possible guerre d'ampleur. Le président Zelensky exclut toute mobilisation générale, mais lance un appel aux réservistes de l'armée. Parallèlement, le chef de l'État annonce un programme de patriotisme économique avec, entre autres, une baisse des taxes sur les carburants. À Kiev, la correspondante d'Éric Bigala.
Jusqu'à ce lundi soir, une bonne majorité d'Ukrainiens se disaient persuadés que la menace d'une guerre d'agression russe n'était pas réaliste. Ils ont changé d'avis à l'écoute de Vladimir Poutine lundi soir. Sofia, par exemple, qui a fui Donetsk en 2014 avec ses parents et qui, à Kiev aujourd'hui, se sent, comme elle dit, rattrapée par la guerre, même si l'armée russe n'est pas encore aux portes de la capitale ukrainienne.
Après ces 8 ans, mes parents ont commencé une nouvelle vie. On a acheté un nouveau appartement. Et maintenant, la guerre nous a rattrapés. Je ne sais pas combien de fois nous devons déménager pour nous libérer de cet agresseur.
À l'écoute de Poutine, c'est une autre figure historique d'agresseur qu'évoque Maria, une architecte d'intérieur à Kiev.
À propos de Vladimir Poutine, je pense que c'est un Hitler proprement dit. J'ai écouté son discours. Je ne peux pas comprendre comment l'idée de la guerre peut venir à une personne qui est contemporaine.
Aucune des deux femmes, toutefois, ne se dit encore prête à quitter l'Ukraine, préférant espérer que le pire n'est pas le plus certain. Kiev, Éric Biégal à France Inter.
La crise Ukraine-Russie, dossier complet sur franceinter.fr.
En France, il est 7h05, ultime étape à l'Assemblée nationale vers l'allongement du délai de l'avortement.
Le Parlement s'apprête à adopter la proposition de loi qui prévoit de rallonger de 12 à 14 semaines le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse. Adoption via un dernier vote ce soir au Palais Bourbon et malgré l'opposition du Sénat. Bonjour Victor Mauriat.
Bonjour.
Ce texte était porté par l'aile gauche de la majorité et à moins de 2 mois de la présidentielle, Victor, les prétendants à l'Élysée, surtout à gauche, soutiennent cette mesure mais veulent parfois aller plus loin.
Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Fabien Roussel, tous trois proposent de constitutionnaliser le droit à l'avortement. Et en ce qui concerne la durée du délai, les candidats de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts proposent, comme la majorité, 14 semaines, tandis que Fabien Roussel souhaite lui s'aligner sur les pays européens qu'il juge les plus progressistes, comme par exemple la Hollande, où le délai est de 22 semaines. Autre proposition forte dans les programmes à gauche, la suppression de la clause de conscience pour les médecins qui leur permet de refuser de pratiquer une IVG. Une clause qui a été fermement défendue par les députés, les Républicains et du Rassemblement National.
Justement, à droite, Victor, les propositions des candidats concernant l'IVG sont moins unanimes.
Oui, Valérie Pécresse avait rappelé il y a un mois sur notre antenne qu'il s'agissait d'un droit fondamental, mais elle ne s'est pas prononcée pour ou contre l'allongement du délai. Alors que les parlementaires de son propre parti s'y sont opposés, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. À l'extrême droite de l'échiquier, Éric Zemmour comme Marine Le Pen n'inscrivent pas une seule fois le mot IVG dans leur programme. La candidate du RN s'estime attachée au droit à l'avortement, mais elle dénonce des IVG de confort. Et le candidat Reconquête s'est lui clairement opposé au projet de loi voté ce soir. Enfin, de son côté, Emmanuel Macron souhaite inscrire cet acte dans la Charte des droits fondamentaux européens, mais contrairement à sa propre majorité, il s'est dit défavorable à l'allongement du délai, arguant que cela rendait l'avortement encore plus traumatisant pour les femmes.
Victor Mauriat, la course à la présidentielle et la galère de certains à obtenir leur parrainage. Pour l'écologiste Yannick Jadot, c'est bon, plus de 500 signatures d'élus, mais ça coince toujours pour Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui suspend d'ailleurs sa campagne pour se consacrer à la collecte des paraphes. De son côté, Jean Castex s'empare du sujet aussi. Il appelle les élus à parrainer les candidats, car comme le veut la formule désormais consacrée, parrainer n'est pas soutenir. Au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, une question centrale. Les accusés, jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, pouvaient-ils être au courant du projet d'attentat qui a mené à l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016? Rappelons que les deux assaillants ont été tués après l'attaque et que ce sont donc 3 membres de leur entourage qui comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes. Lors de l'audience hier, un enquêteur est venu retracer les liens entre l'un de ces 3 hommes et les assaillants, Ariane Grissel.
C'est le portrait d'un accusé séduit par les thèses djihadistes que dresse à la barre cet enquêteur. Il cite des échanges entre Farid Khalil et son cousin, le terroriste Abdelmalik Petitjean. « On part en Syrie, si on n'y arrive pas, on fait péter la tour Eiffel », lui écrit le futur assaillant. « Oui, avec l'aide d'Allah », répond Farid Khalil. Mais de là à savoir que son cousin l'est tué dans une église, il m'a toujours parlé d'attaque sans préciser les conditions, a expliqué l'accusé pendant l'enquête. Quelques heures après l'attentat, il contacte le renseignement territorial chez lui en Meurthe-et-Moselle pour l'alerter d'un projet d'attaque. À ce moment-là, il l'assure, il ne sait pas que son cousin est déjà mort. Les agents du renseignement, eux, ne font pas tout de suite le lien avec les faits survenus le matin. Il aurait pu appeler avant s'il était dans une démarche sincère, souligne lors de l'audience le policier de l'antiterrorisme. On a l'impression que tout le monde a été pris de court par l'attentat, y compris le renseignement, note pour sa part l'avocat de Farid Khalil. Pourquoi lui, il aurait dû tout voir et tout comprendre? L'enquêteur rappelle que l'accusé est considéré comme l'interlocuteur privilégié d'Abdelmalik Petitjean. Le degré d'information, dit-il, n'est n'était pas le même.
Ariane Grissel, service police-justice de France Inter. Le procès doit durer jusqu'au 9 mars.
Il est 7h09, ils n'ont pas fait le poids face aux champions d'Europe en titre.
Ouais, les footballeurs de Lille, défait 2-0 par Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. De leur côté, Villarreal et la Juventus se sont quittés sur un nul, 1-1. Et puis toujours sur la planète foot, chez les femmes, l'équipe tricolore remporte pour la 2e année consécutive l'honorifique tournoi de France en battant 3-1 les Néerlandaises championnes d'Europe, de bon augure à quelques mois de l'Euro. Créer de l'art contemporain avec des fibres de papier, de tissu, voire avec des cheveux, cela s'appelle de l'art textile et une exposition internationale y est consacrée à Montrouge, en banlieue sud de Paris. À Mignard Textile, on découvre des œuvres petit format, faites de matériaux aussi surprenants que les histoires qu'elles racontent. Visite guidée, signale Amélie Perrier.
54 pièces présentées comme des bijoux précieux sur des plateaux suspendus. À chaque fois, le visiteur doit se pencher tout près des sculptures miniatures pour découvrir que l'art textile offre des possibilités infinies. Andrea Ruggiero mène les visites guidées.
On pense toujours que l'art textile, c'est la vieille mamie qui est à la maison toute seule, qui commence à réaliser son maillot et c'est tout. C'est pas du tout le cas. En fait, tout ce qui est textile, c'est quelque chose qui a de la fibre. Les cheveux, par exemple, ça peut être aussi du métal.
Ou encore du papier et bien sûr du tissu. Les artistes créent des mondes imaginaires en tressant, en brodant, en nouant. L'œuvre de Frédéric Gourdon, par exemple, s'appelle « Contour du fragile ».
C'est des liens, c'est des fils qui se croisent, qui se nouent, qui se dénouent, qui peuvent se déchirer. Et c'est symboliquement très fort. Oui, c'est vraiment du lien.
Un lien qui a tellement manqué ces deux dernières années. Naturellement, la pandémie s'est imposée comme thème à beaucoup de créateurs. Par exemple, Florence Pinson-Inden présente 2020 Nebula P4.
Une sorte de représentation d'un nuage de virus et de petits masques qui a été notre grosse première problématique. Donc ça a un côté sûrement très beau, mais potentiellement risqué. Et donc il reste à l'abri dans cette bulle.
Une bulle de délicatesse pour cette 17e édition de Mini Art Textile.
Cette exposition Mini Art Textile est dédiée donc à l'art textile, l'art contemporain. C'est au Beffroi de Montrouge, au sud de Paris, jusqu'au 13 mars et c'est gratuit. Un an jour pour jour, après avoir mis en scène leur séparation dans une vidéo de 8 minutes, les Daft Punk frappent un nouveau coup. Ils renaissent, Nicolas, sur les réseaux sociaux.
On ne s'en est pas remis encore.
Tout à fait, le duo mythique de l'électro art diffusé sur la plateforme Twitch. Un concert live de décembre 97 à Los Angeles. Et puisqu'avec Daft Punk, tout est histoire de symboles, la diffusion aurait commencé de ce concert à 22h22, ce 22/02/2022. Timing palindrome par excellence.
Merci Hélène Fromanti. Le Zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui sur la restitution des œuvres d'art au Bénin.